L'effet sembla être immédiat, car aussitôt ces tremblements cessèrent, ses bras tombèrent au sol et son visage perdit sa terrifiante raideur. Quand la douleur eut disparu, l'apothicaire, la gorge nouée, releva lentement la tête. Devant lui, dans la lumière argentée de la lune, il croisa les yeux d'Aalys, qui, assise de l'autre côté de la pièce, le regardait fixement, terrorisé. Ils restèrent un long moment ainsi, face à face, immobiles. Puis, sans dire un mot, Andreas retourna vers sa couche, s'allongea, et lui tourna le dos. Chapitre 116. J'avais en ce temps-là un client, un bon Miché fortuné, qui venait me voir presque tous les jours. Et ce n'était pas un ordinaire. Non pas seulement parce qu'il était riche, du genre à baigner dans le beurre, et fort renommé, mais aussi parce qu'il exigeait de moi des choses que l'on ne demande pas à n'importe quel putain, si tu vois ce que je veux dire. Un vrai vicelot, du genre qui ne songe qu'à la foutrerie, hein, porté sur l'article. Un fou de la broquette. Un vrai suppôt du braquemar, tu vois.
Je vois.
Dans le métier, pour pas attraper de mômes, on sait comment y faire. Soit qu'on prend la pine au cul, soit qu'on demande au Miché de la retirer au bon moment pour aller cracher dans la broussaille.
Je ne suis pas sûr qu'il soit utile d'entrer dans ce genre de détails, Isia. Fais pas ta fifille, le Valois. Si tu la veux, mon histoire, faut bien que je te dise les choses de la vie comme elles sont.
Et donc, un jour, ce client-là, il a voulu faire le serrurier, tu vois. Il m'a limé par devant. Et il m'a arrosé la nature en dedans comme un bon jardinier. 9 mois plus tard, j'avais un gosse.
Et qui était-il, ce client ?
Eh bien forcément, comme tous les vrais vicieux, c'était un grand du monde, et pas des moindres. Du genre que si ça se savait, ça ferait pas rigoler tout Paris.
Nogaret ? Demanda aussitôt le comte de Valois qui pensait avoir compris depuis longtemps et n'en pouvait plus d'attendre la révélation.
Non. Mais presque.
Enguerrand de Marigny.
La mère sourit. T'es pas loin, mon bijou, et t'as fait vite. C'était bien un Marigny, mais c'était pas celui-là.
Philippe de Marigny, l'archevêque de Sens.
Tout juste. Enfin, à l'époque, il était surtout l'archevêque de mon cul.
Le comte éclata d'un rire si long qu'il sembla ne jamais finir.
Andreas Saint-Loup, fils d'un archevêque, on aura tout vu. Et tout s'explique à présent.
Murmura Charles de Valois comme s'il réfléchissait tout haut.
Nogaret avait dû le découvrir.
Il voulait s'en servir pour faire chanter les frères Marigny.
Ou pour affaiblir leur position, pensez-vous. L'archevêque de Sens, ce grand moraliste, ce cul béni donneur de leçons, accusant les Templiers de mauvaises mœurs, et les conduisant au bûcher alors qu'il avait engrossé une putain.
Y a pas de honte à engrosser une pute, monsieur Ducon.
Ce n'est donc pas Saint-Loup, continua Valois comme s'il n'avait pas entendu, mais ces maudits Marigny qui ont tué Nogaret, pour le faire taire. Et maintenant, ils veulent s'assurer de faire disparaître les preuves, à savoir votre fils.
Ils veulent le tuer ?
Oui, madame. Et ils ont déjà essayé en envoyant à ses trousses Guillaume Imbert, le grand inquisiteur de France.
Et il s'en est sorti ?
Eh bien, oui. Il lui aurait tranché la gorge.
À un évêque inquisiteur ?
S'exclama la mère presque amusée.
Pas de doute, c'est bien mon fils.
Le comte de Valois ne releva pas le sarcasme hérétique de la vieille femme, tout enflammé qu'il était d'avoir découvert ce secret qui lui donnerait assurément la victoire sur le clan Marigny. S'ils parvenaient à prouver qu'ils étaient les véritables meurtriers de Nogaret, et que leur mobile était de le faire taire avant qu'on ne découvrît la vie dissolue de l'archevêque, nul doute qu'ils finiraient l'un et l'autre pendus au gibet de Montfaucon.
Madame, ce que vous venez de m'apprendre est formidable, et je vais pouvoir